Entretien sur la seconde épître aux Corinthiens par Henri Rossier, édition 1969. Chapitre 6, verset 11 à chapitre 7, verset 1. Notre bouche est ouverte pour vous, ô Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit en nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Et en juste récompense, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous, vous aussi. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Béliar? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit, « J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Le verset 11, par lequel commence notre lecture d'aujourd'hui, se relie, pour ainsi dire, au verset 1, où l'apôtre exhorte les Corinthiens à n'avoir pas reçu la grâce de Dieu en vain. Le résultat pratique de la réception de la grâce se résume en un seul mot, la sainteté. En effet, la sainteté pratique comprend toute la vie chrétienne comme témoignage dans ce monde. À la Pâque, les Israélites étaient mis à l'abri du jugement de Dieu par le sang de l'agneau. Un autre type de la mort de Christ nous est donné à la mer Rouge, où le peuple n'est pas seulement mis à l'abri du jugement, mais amené à Dieu. Mais dès qu'ils eurent offert la Pâque, les Israélites n'avaient plus qu'une seule chose à faire, la fête, qui était la célébration de la fête des pains sans levain, type d'une vie de sainteté pratique, partant du sacrifice et continuant sans interruption pendant 7 jours. Le nombre 7 est le chiffre de la plénitude, image du cours complet de notre vie ici-bas. Il est important pour nous de comprendre en quoi consiste dans ce passage l'exhortation de l'apôtre à la sainteté. La sainteté pratique a 3 caractères. Le premier est la sainteté quant à nos associations avec le monde. Le deuxième, la sainteté quant à nos associations religieuses. Le troisième, la sainteté individuelle. Si nous avons bien compris ces 3 points, nous trouvons que la sainteté pratique pénètre, pour ainsi dire, toute notre vie chrétienne. Le 19e chapitre du Lévitique, verset 19, nous les montre clairement. Premièrement, tu n'accoupleras pas parmi ton bétail 2 espèces différentes. C'est l'association avec le monde dont il est parlé dans notre passage au verset 14 et 15. Deuxièmement, tu ne sèmeras pas ton champ de 2 espèces de semences. C'est le type de l'association religieuse dont il est parlé au verset 16. Nous ne pouvons employer des semences diverses dans le champ de Dieu. Il faut que nous semions une semence unique. Troisièmement, tu ne mettras pas sur toi un vêtement d'un tissu mélangé de 2 espèces de fils. C'est le type de la sainteté individuelle dont il est parlé au chapitre 7, verset 1. Comme nous venons de le dire, nous trouvons ces 3 points dans notre chapitre. Mais l'apôtre dit, avant de les aborder, « Notre bouche est ouverte pour vous, ô Corinthiens, notre cœur s'est élargi. » Il avait vu les fruits de l'esprit produits chez eux à la suite de sa première épître et, Au lieu d'avoir ses sentiments refoulés dans son cœur, il était maintenant en liberté à leur égard. Il ajoute « Que votre cœur s'élargisse aussi. » En quoi devait-il s'élargir? Il fallait désormais que leur marche fût une marche sainte. D'abord, verset 14, ils ne devaient pas se mettre sous un joug mal assorti avec les incrédules. C'est une allusion à ce que nous avons lu dans le Lévitique. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas un seul trait d'union entre le monde et les enfants de Dieu. Ce sont deux espèces différentes. Or, quoi qu'en disent les savants, il n'y a jamais eu dans le monde de transformation des espèces. Combien cette parole est de saison pour le temps présent. Lorsque le témoignage actuel de Dieu commença à être connu au milieu de nous, n'y avait-il pas une séparation beaucoup plus complète d'avec le monde? Dans quelle mesure sommes-nous restés fidèles à ce témoignage? Est-ce que faire des affaires avec le monde, l'employer pour ses propres affaires, ne caractérise pas beaucoup d'entre nous, chrétiens, surtout parmi les jeunes? S'il y avait plus de fidélité, je ne doute pas que cette parole de l'apôtre produirait les mêmes fruits qu'elle produisait autrefois. Nous avons à courber la tête avec humiliation, en pensant que cela se réalise si peu parmi les générations nouvelles. Quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord de Christ avec Bélial? C'est un contraste tout du long, une opposition absolue entre l'élément chrétien et l'élément du monde. Du côté chrétien est la lumière. Ce n'est pas seulement que la lumière a lui sur nous, mais il nous est dit « Vous êtes lumière dans le Seigneur ». Si lui-même est la lumière du monde, ses disciples, en son absence, sont aussi la lumière du monde. Éphésiens 5, verset 8. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Qu'est-ce que les ténèbres ont fait de la lumière? Si, dans une chambre complètement noire, vous allumez une simple allumette, vous dissipez les ténèbres dans une mesure. Mais au point de vue moral, lorsque la lumière du monde vint ici-bas, les ténèbres ne l'ont pas comprise ou saisie et n'ont été en aucune manière imprégnés par elle. Cela fait ressortir l'état incurable de l'homme, et cet état reste aujourd'hui le même en présence de ceux qui sont la lumière du monde depuis le départ de leur Sauveur.
Quel accord de Christ avec Bélial, ou quelle part a le croyant avec l'incrédule?
Verset 15. Comme cela atteint nos consciences. Il y a Christ d'un côté, le diable de l'autre. Peut-il y avoir un accord entre les deux, entre l'ennemi de Christ et ceux qui représentent Christ dans ce monde? Il y a la foi d'un côté et l'incrédulité de l'autre, et aucun point de contact possible entre ces deux pôles contraires. L'apôtre passe maintenant à la seconde question mentionnée en type au chapitre 19 du Lévitique.
Quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant.
Verset 16. Chose inouïe, n'est-ce pas, que nous, chrétiens, l'assemblée de Dieu, nous soyons le temple du Dieu vivant. Au chapitre 26 du Lévitique, Dieu dit:
« Si vous gardez mes commandements, je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple.
Versets 3 et 11. C'est-à-dire qu'il fait dépendre de leur conduite le fait qu'ils seront le lieu où Dieu habite. Pour nous, c'est le contraire. Nous sommes ce temple en vertu du don du Saint-Esprit, et c'est parce que nous le sommes que nous sommes appelés à être saints, pratiquement séparés pour Dieu dans ce monde. Ne nous associons en aucune manière avec la religion du monde qui nous entoure. Ce principe n'a pas changé depuis que l'idolâtrie a disparu du monde chrétien, l'éloignement de Dieu n'ayant fait que revêtir une forme moins grossière. Mais s'y associer serait perdre le vrai caractère de peuple de Dieu.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai.
Verset 17. C'est une citation du chapitre 52 d'Ésaïe. Il s'agit là, pour le peuple de Dieu, qui va être introduit dans la terre promise, de sortir de toute association avec Babylone, mère de l'idolâtrie, afin d'avoir part aux bénédictions de la terre d'Israël. Pour nous, la séparation a lieu aujourd'hui d'avec la grande Babylone, la chrétienté apostate, pour entrer dans notre Canaan céleste. La séparation est à la base même du témoignage chrétien, mais il ne suffit pas de dire la séparation, car il peut y en avoir une très mauvaise. La sainteté consiste dans la séparation pour Dieu et pas pour autre chose. Voilà ce qui nous sépare de la religion du monde. Notre sainteté est pour Dieu. Une très grande bénédiction s'y rattache. Il dit,
« Je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. »
Verset 18. Cela ne signifie pas que, si nous ne sortons pas du milieu d'eux, nous ne soyons pas des enfants de Dieu, mais la jouissance des relations de famille avec le Père, comme pour Israël, celle des rapports avec l'Éternel et le Tout-Puissant, provient du degré de notre séparation pour Dieu. Si, pareil à la famille des Kéates, nous sommes employés à porter les ustensiles du sanctuaire, pouvons-nous associer le monde avec nous pour le faire? Aurait-il jamais été permis à un étranger de porter l'arche et le propitiatoire, l'encensoir, le chandelier, l'autel d'or ou l'autel d'airain lui-même? Personne ne pouvait toucher à ces choses s'il ne faisait pas partie de la tribu de Lévi, à laquelle étaient attribuées ces fonctions saintes en Israël. Ayant dit ces choses, l'apôtre arrive à la sainteté individuelle, aux vêtements d'un tissu mélangé de Lévitique 19. C'est une chose très sérieuse à considérer.
Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu.
Chapitre 7, verset 1. Je pense que ces deux mots, souillure de chair et d'esprit, indiquent d'un côté la sainteté quant à la conduite individuelle, telle qu'elle se montre au dehors dans notre marche, et de l'autre la sainteté quant à l'état de nos propres cœurs. On peut être séparé de la souillure quant à son témoignage extérieur, de manière à être en apparence irréprochable. Mais si quelqu'un pouvait voir dans nos cœurs, combien de choses contraires à la pureté n'y découvrirait-il pas? Nous avons à mettre d'accord ces deux côtés de notre sanctification personnelle, à tenir égaux ces deux plateaux de la balance. Comme individus, notre marche extérieure, nos actes et nos paroles doivent correspondre à ce qu'il y a dans nos cœurs, afin que nous puissions répéter avec notre Sauveur bien-aimé, ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Psaume 17, verset 3. Si les trois caractères de sainteté pratique que nous venons d'énumérer se trouvent chez les enfants de Dieu, c'est la preuve qu'ils ont été attentifs aux exhortations de la parole. Marcher contrairement à ces principes, c'est avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Que Dieu nous donne à tous d'avoir, dans nos vies chrétiennes, beaucoup plus de réalité que nous n'en avons. Qu'il nous donne, quant à nous-mêmes, un esprit d'humiliation et de repentance, pour que nous devenions des témoins plus fidèles de celui dont la grâce a tout fait pour nous, et qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a introduits dans le royaume du Fils de son amour.